Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je me permettrai de faire remarquer qu'il y a une certaine ironie à recevoir en ce début novembre le sieur Étienne de Crécy, dont le patronyme évoque à l'historien amateur la funeste bataille du même nom, survenue en l'an de grâce 1346. Funeste en ce sens que l'armée française se prit une déculottée des familles sous une pluie de flèches britonnes et donc perfides, ouvrant par là même de longues hostilités avec nos voisins anglais connus sous le nom de guerre de 100 ans. Oui, ironique en ce sens que nous voici rendus à nouveau en 2021 à un point de tension tel avec le Royaume-Uni qu'il faudra bientôt se faire passer pour un Allemand plutôt que pour un Français auprès des Brexitiens les plus acharnés. De cela, faut-il tenir rigueur à notre invité Étienne de Crécy, au seul prétexte qu'il porte le nom de cette marquante défaite? La réponse est non, bien sûr, d'autant plus que dans les années 90, soit 650 ans plus tard, c'est grâce à son duo motorbasse, formé avec le très regretté Philippe Sdard, qu'il vengea l'affront sur les dance floors, réconciliant les anciens ennemis unis dans une même sudation, infiniment moins meurtrière qu'un corps à corps sur un champ de bataille, grâce à une musique à la croisée, je cite les spécialistes, de la house et de l'abstract hip-hop. Étienne de Crécy est l'invité de Pop 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 et Pop Pop Pop, et ben c'est parti.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine de Gaulle.
Et bonjour Étienne de Crécy.
Bonjour Antoine de Cônes.
Alors, si je comprends bien, Crécy est un nom lourd à porter. Une déconvenue militaire à l'aube de la guerre de Cent Ans, comme je le rappelais à l'instant, mais surtout des frères et sœurs dessinateurs de BD, graphistes, réalisateurs et stylistes. C'est lourd tout ça.
Effectivement, oui. Non mais c'est par contre c'est vrai que la revanche sur la guerre de 100 ans, j'y avais pas pensé, effectivement.
Ah bah oui.
c'est assez juste, ouais.
Et oui, bien sûr, réconciliation, ouais. Grâce à la musique notamment. Alors au menu, à propos de musique, au menu également de Pop 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 tout à l'heure, la jeune chanteuse américaine Courtney Marie Andrews qui sera en live sur la scène de l'émission tout à l'heure. Étienne de Crécy, on fête donc aujourd'hui les 25 ans de cet album Pan Soul du duo Motorbass que vous aviez formé avec Philippe Sdard. J'ai parfois du mal à me souvenir, moi, de ce que je faisais la veille. Vous souvenez-vous précisément de la sortie de Pan Soul?
Alors, la sortie de Pan Soul, non, je me souviens pas précisément. En fait, tiens, c'est marrant. Effectivement, c'est une année où on avait sorti deux... Moi, j'avais sorti aussi Super... Il y avait Pan Soul, Super Discount, mais ouais. La sortie en elle-même, non, je me souviens pas. Il y avait pas un jour de sortie particulier. Il faut dire que c'était un moment où ça sortait en distrib. Mm-hmm. En distribution, c'était très indépendant. Et en fait, je crois que l'album, quand il est sorti, il était d'abord chez les disquaires spécialisés, mm-hmm. et pas obligatoirement à la Fnac. Il est arrivé un peu plus tard, en fait.
Oui, mais petite émotion quand même, le jour où vous avez eu l'objet entre les mains.
Ah oui, non, voilà, jour où on l'a reçu. Mm-hmm. Peut-être une petite émotion, je m'en souviens plus.
Souviens plus de rien, en fait.
Je me souviens plus de rien. Non, j'ai une mémoire qui remonte à 5 ans.
Vous et après, ça s'efface. Étienne de Crécy.
Ça, c'est...
D'accord, et vous n'avez aucun rapport avec la défaite militaire française en 42, pardon. Alors, la même année, pas 1342, hein, la même année sortait ce morceau.
Je suis redingue de toi.
Red Dingue de Toi, c'était un morceau écrit par mon ami Laurent Chalumeau, qui étrangement n'a pas souhaité venir fêter les 25 ans du morceau ici. Comment est-ce que vous avez vécu cette concurrence frontale?
Ben, c'était très difficile, mais surtout c'était une ambition, nous, c'était justement d'être en compétition avec
Red Dingue. Contrairement à lui, oui.
Non mais c'est assez marrant, effectivement, nous on sortait à ce moment-là, on faisait de la musique, on travaillait dans les studios avec Philippe, donc ouais. On était en contact, on va dire, avec la variété française et avec l'industrie du disque, mais par contre ce projet-là, c'était un projet, la musique électronique à l'époque, il n'y avait aucun enjeu commercial et aucune idée que ça pouvait un jour passer ou à la radio ou à la télé, donc en fait on faisait cette musique, c'était totalement pour un public complètement à part, en fait.
Et c'était une année riche en émotions, puisque l'année de la sortie, c'est aussi l'année de la sortie de
Partir un jour sans retour.
Partir un jour et sans retour, en plus, hein.
Oui, ça, je me souviens, mais c'était il y a si longtemps, c'est marrant, parce que du coup, là...
Oui, il y a si longtemps.
Ah oui.
Vous sentiez déjà que la French Touch allait balayer ces boys bands en chemise moulante transparente?
Bah non, justement, pas du tout.
Non.
Non, on pouvait pas imaginer que ça prenne de l'ampleur.
Ah vraiment? Vous n'avez pas anticipé ça?
Non, vraiment, à l'époque, nous, on venait...
À quel point ça venait?
On venait de la rave, donc c'était des soirées très underground où personne ne savait où étaient les soirées. Il fallait aller dans la soirée précédente, on recevait des flyers si on était bien habillé. Ouais. Et à ce moment-là, on pouvait se déplacer donc dans des soirées qui étaient vraiment interdites. Et c'était une toute petite communauté, en fait, qui était mondiale, parce qu'il y avait des scènes comme ça dans tout le monde, mais c'était une toute petite communauté. Et la musique était tellement particulière, à aucun moment on imaginait que ça aurait pu changer le son de la musique musique actuelle.
Et ben voilà, 25 ans plus tard, on se rend compte à quel point ça a changé le son de la musique actuelle, Étienne. Quand je vous vois, je pense moi à un morceau qui me donne le sourire. Ce morceau, c'est un de vos morceaux, c'est Smile, featuring Alex Goffer, et cet extrait de l'album Super Discount Free.
If you wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now. Come on.
Dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau signé Alex Goffner et Étienne de Crécy, notre invité aujourd'hui. Étienne de Crécy, vous avez rencontré Alex Goffner à Versailles dans les années 80, Goffer, pardon, dans les années 80, en arrivant de la banlieue de Marseille. Vous avez vécu cette arrivée versaillaise comme, je vous cite, un brutal, et vous avez dit « Je venais d'une ville où les mecs se font la bise et je suis arrivé à Versailles où l'on serre la main des filles ». Vous avez résisté à l'appel des mocassins à glands et le pull noué sur les épaules.
Effectivement, non, j'ai tenté le pull noué sur les épaules.
C'est un choc thermique de passer de Marseille à Versailles.
Et ça m'allait pas. Ah ouais, c'était un choc. Un choc, c'était vraiment c'était très différent. Mm-hmm. C'est un peu moins différent aujourd'hui quand même. Même si Marseille reste une ville singulière,
ouverte, on va dire.
Ouverte et singulière. Ouais. Non, mais c'est un truc. J'adore Marseille, mais c'est vrai que la différence est peut-être moins forte que dans les années 80, mm-hmm. où effectivement c'était deux mondes totalement différents. Ouais.
Et à cette époque, vous rencontrez donc Alex Goffer au lycée, mais aussi ceux qui deviendront par la suite les fondateurs du groupe R. Vous sentiez dans l'air versaillais, ce parfum particulier de création, une espèce de marmite ou...
Alors, en fait, Versailles, c'est une ville où on s'ennuie beaucoup. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, à l'époque, on était au lycée, justement, tous ensemble. C'est une ville où les bars ferment à 20h, où tout est fermé le soir, et où, de toute façon, même si les bars sont ouverts, ils sont pas marrants. À part le franco-belge qui était place du marché, c'était le seul endroit, donc c'était le repère un peu. Mmh. Et tous les gens qui aimaient la musique, on s'est vite retrouvés. On était 15 à Versailles, ouais, donc c'était, ouais. C'était vite vu. Et donc je pense que c'est vraiment l'ennui qui nous a fait démarrer dans la musique.
Mais c'est pas l'ennui qui a fait que Versailles est devenue une des villes capitales dans la French Touch.
Je pense que si, on s'ennuyait beaucoup et donc du coup c'était vraiment un passe-temps. En fait, la musique c'est devenu un passe-temps de tous ceux qui s'ennuyaient.
Ok, donc une quinzaine d'individus.
De tous ceux qui s'ennuyaient et qui aimaient bien la musique.
Et qui faisaient de la musique, oui. À noter également que le groupe Phoenix est versaillais. Est-ce que la French Touch résonne encore aujourd'hui à Versailles ou eh bien est-ce que les habitants ont profité de votre départ pour se remettre à écouter les 4 saisons de Vivaldi?
Non, je pense. Il y a un festival maintenant à Versailles, Versailles Electro, chaque année.
Qui ferme à 8h donc.
Qui ferme pas à 8h. Non, alors là. Tout comme Marseille, Versailles a changé aussi. Versailles, c'est peut-être en canaille. Je sais pas. Alors, j'ai plus de. Mais en fait, je suis pas resté très longtemps à Versailles. Je suis arrivé. J'ai fait mes années de lycée seulement, et après, je suis allé à Paris. Donc, en vrai, c'était les années de lycée. Moi, c'était 4 ans. J'ai pris un an de plus. Donc, c'était assez court. Par contre, effectivement, c'est là où j'ai rencontré tous les gens avec qui j'ai collaboré pratiquement. Et après, je sais plus ce que je voulais dire.
Que le festival. Oui, que la ville.
Oui, voilà. Il y a un festival maintenant, Versailles Electro, qui est un super festival. Où avec beaucoup de public, c'est dans le jardin du château, donc c'est assez beau. Ouais. Et donc voilà, ça a peut-être changé.
Sur les compilations Super Discount, étaient crédités Étienne de Crécy, mais aussi d'autres artistes comme La Chatte Rouge, Minos pour Main Basse sur la Ville ou encore Mouloudji. Tous ces artistes, en réalité, c'était vous, Étienne de Crécy.
Oui.
Et vous dites avoir passé votre carrière à expliquer tous ces pseudos. En fait, vous étiez un poil schizo ou...
C'était un peu. Alors, c'était vraiment.
Personnalité multiple.
Alors, déjà, il y a un truc, c'est. Moi, je venais vraiment de la techno, les rêves. Et dans la techno, en fait, les artistes de Détroit qui ont inventé, qui ont ériger les règles de la techno, en fait l'anonymat était un truc assez bien vu, et le fait d'avoir plusieurs pseudonymes de masquer les pistes, c'était un truc qui était à la mode à cette époque-là. Et moi, au moment où j'ai fait Super Discount, c'était un processus un peu compliqué, et comme j'avais pas assez de morceaux, j'ai fait ça vraiment dans l'urgence, j'avais très peu de temps pour le faire, j'avais pas assez de morceaux, j'avais demandé des disquettes à mes amis R et Alex Goffer. J'ai fini les morceaux, j'ai produit, et puis finalement, pour les intégrer à l'album, je me suis dit, ce que je vais faire croire que c'est une compilation, qu'il y a plein d'artistes, comme ça je peux mettre leur nom. Les featuring, c'était pas encore à la mode, donc j'ai mis plein de noms. C'était vraiment débile de ma part. Et effectivement, j'ai mis. Je continue aujourd'hui à dire que c'est moi derrière tous ces noms.
C'est amusant parce que vous faites partie des pionniers de la French Touch, mais avec Alex Goffer, dont vous venez enfin de prononcer correctement le nom. Après, je l'ai appelé Goffner et Goffer. Non, c'est Golfer, c'est ça?
Goffer
qui signe le featuring du morceau que nous venons d'entendre il y a quelques instants. Vous vouliez surtout pas passer pour des Français. Nous avions baigné dans la musique anglaise et américaine, dites-vous, et tout à coup, c'était eux qui nous écoutaient, mais on ne voulait pas qu'on découvre qu'on était français. Comment est-ce que vous avez vécu ce trouble de l'identité?
Ah oui, ça c'est marrant parce que je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens pas de ça. Au contraire, l'album Super Discount, tous les noms étaient en français.
Toutes les citations sont absolument authentiques. Oui, pas de cet air suspicieux, alors, Étienne.
Non, c'est pas un air suspicieux, mais il n'est pas impossible que j'ai dit des bêtises.
Ah bon?
Donc, effectivement, on a pris des pseudos au début, en tout cas, on a pris des pseudos assez anglophones, et on voulait s'intégrer, nous, à ce monde-là.
D'accord, nous sommes là, réunis aujourd'hui, enfin réunis pour l'instant tous les deux, mais nous allons être réunis avec Charline Roux dans quelques instants pour parler de Pan Soul et du 25e anniversaire de Pan Soul. Charline arrive dans un instant, juste après cet extrait de l'album et de cet extrait de Flying Fingers. Flying Fingers, extrait de Flying Fingers dans Pop 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 sur France Inter, cet extrait de l'album Pan Soul qui fête aujourd'hui ses 25 ans, un anniversaire que nous célébrons avec Étienne de Crécy. Étienne, je vous présente celle qui a tenté de conquérir le monde avec la Picardie Touch et qui n'a pas renoncé d'ailleurs.
Ça ne prend pas, ouais, étonnamment.
Bonjour, bonjour Charline.
Bonjour.
Charline, Pan Soul de Motorbass, c'est quoi, c'est qui?
C'est un chef-d'œuvre qui ne permet même pas de faire la blague aznavouriana. C'est un disque que les moins de 20 ans, etc., etc., puisque malgré son grand âge, son degré de notoriété ne s'est jamais affaibli. Et oui, je parle toujours de Pan Soul. Et ses débuts ont été aussi fulgurants. Étienne de Crécy, si je vous dis deux points, ouvrez les guillemets, il doit y avoir quelque chose de spécial qui coule dans l'eau de la Seine en ce moment. Un ingrédient magique qui ne demande qu'à être mis en bouteille, quelque chose qui a propulsé les Français dans le XXe siècle et nous a donné certains des meilleurs rythmes imaginables. Ça vous parle?
Oui, effectivement, c'est un article, alors je ne sais plus le journal.
Music.
Mais en anglais,
Music. Vous avez
tout oublié. Non, mais
qui était vraiment une éminence en la matière, enfin en tout cas pour
Music,
les clubbeurs.
Ouais. Voilà, quand le journaliste de Music était venu nous interviewer, effectivement, ça a été... c'était le moment important. Autant la sortie de l'album, je m'en souviens pas, autant ça, quand les journalistes anglais prenaient l'Eurostar pour venir nous voir, il y avait un truc où on s'y attendait pas.
Mmh. Mais alors, quand vous avez lu cette critique pour la première fois, comment
on
vous avez réagi?
On était assez fiers.
J'imagine.
On était assez fiers, oui.
Et vous avez fait analyser l'eau de la Seine depuis ou...
On la boit hyper régulièrement.
Okay. Ah, c'est ça. Motorbass a un côté très hip-hop. Nous venons de l'entendre avec le morceau Flying Fingers et les scratches de Jimmy J, le DJ de MC Solar, et avec qui Philippe Sdar travaillait beaucoup. Motorbass, c'était de la techno mixée par des mecs qui faisaient du hip-hop, résumiez-vous, à l'époque. C'était ça la recette?
Il se trouve qu'effectivement, on était dans la musique électronique et on avait cette culture hip-hop et surtout on travaillait avec des sampleurs. Mmh. C'est-à-dire que ça, c'est un peu la technologie de comment on fabrique la musique. La techno à l'époque était beaucoup faite avec des boîtes à rythme et des synthétiseurs. Ouais. Et nous, on utilisait des extraits de bouts d'albums qu'on samplait. Mmh. Donc, on mettait ces extraits en boucle et on les utilisait comme ça. Et ce qui fait qu'il y a une sonorité qui est peut-être plus accessible pour les gens qui sont pas très spécialisés dans la techno, mm-hmm. parce que on reconnaît des instruments en bois, quoi, genre le piano, les guitares ou les batteries, ce qui fait qu'il y a un côté un peu plus accessible.
Et les passerelles n'étaient pas évidentes entre techno et hip-hop à l'époque.
Il n'y avait pas du tout de passerelles. Mm-hmm. Non, à l'époque c'était même donc Philippe qui mixait l'album de MC Solar et pas mal d'albums de hip-hop, il faisait tous les trucs de Motorbass en cachette, il fallait pas que ça se sache.
Ouais. Et aussi quelque chose de très particulier dans cet album, de la musique hypnotique qui donne à la fois envie de danser, mais aussi envie de rêvasser, voire de méditer. C'est pas facile de faire les deux en même temps, je vous le concède. Vous avez inventé un nouveau son français et peut-être aussi une nouvelle manière de clubber.
Alors c'était... effectivement, c'était pas tellement... Le truc, c'est qu'on s'était donné... il y avait pas d'injonction à être efficace en club à ce moment-là quand on a fait l'album. Et en fait, le truc qu'il y avait un peu de nouveau avec Motorbass, et c'était une idée de Philippe. Au début, on avait fait des maxi. Avant l'album, il y a eu deux maxi Motorbass qui étaient destinés au club. Et puis là, tout d'un coup, il a dit mais on devrait faire un album. On voulait faire un double maxi. Mmh. Alors ça semble un peu logique aujourd'hui, mais à l'époque, les albums n'existaient pas dans la techno, donc c'était une idée de génie. Et effectivement, tout d'un coup, en se disant album, on a pu faire des morceaux qui étaient plus down tempo, qui étaient plus lents, qui étaient moins destinés au club. Et c'est ça qui fait un peu la richesse du panel des morceaux dans l'album.
Mais que vous avez quand même pu tester en live.
Très peu finalement.
Ouais.
En fait, on n'a pas tourné avec Philippe. En fait, le groupe, au moment où l'album est sorti, on a fait l'album, on était colocataires. Le moment où l'album est sorti, j'ai eu un enfant, on a arrêté la colocation. Ouais. Et en fait, le groupe a jamais vraiment eu de vie en dehors que cet album. Mmh.
Oh, pardonnez-moi, je dansais en rêvassant.
C'était pas Jojo à voir, hein, d'ailleurs.
Oh, ça va. Philippe Sdar travaillait donc à l'époque MC Solar, mais comme vous l'avez dit il y a quelques instants, Étienne, il cachait faire de la techno, car dans le hip-hop, la techno était mal considérée. C'était un truc honteux, même. Vous avez le même sentiment, vous aviez le même sentiment, celui de faire de la musique sous le manteau?
On faisait de la musique. Oui, alors de toute façon, on faisait une musique quand même qui était pas normale.
C'est quoi une musique normale?
La musique normale, c'était un peu la musique qui passe. Alors maintenant, elle est rentrée dans la normalité, mais à l'époque, c'est vrai que c'était une musique qui était pas normale. C'est-à-dire les gens, quand ils venaient chez nous, donc dans cet appartement qu'on louait, on était plusieurs dedans, et qu'on écoutait les disques de techno, les gens nous regardaient avec un drôle d'air en disant vous avez pété un câble, vous êtes fous, en fait. Parce que c'était une musique, c'était donc la techno des années 90, la techno de Détroit et de Chicago des années 90. C'est une musique très radicale.
Ouais.
Et donc effectivement, c'était une musique pas normale, et c'est ce que j'ai aimé dans la musique, et c'est ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est quand les morceaux ils sont pas normaux, et que si le grand public nous regarde avec un air interrogatif, ça veut dire que c'est bon signe.
Mais justement, on en parlait il y a un instant, vous avez convaincu Jimmy Jay, le DJ de Solar de l'époque, de participer à l'album. Qu'est-ce qu'il vous a dit de ce que vous proposiez musicalement?
Alors en fait là, ce truc-là, c'était justement, c'était Philippe, moi j'étais pas là le jour où Jimmy Jay il a fait les scratchs, c'est Philippe qui était donc au studio Plus 30 où ils enregistraient Solar, et il était venu un petit peu en avant de la session, justement pour pouvoir faire quelques retouches sur le morceau. Et en fait, il se trouve que Jimmy Jay est arrivé avant les autres. Et en fait, donc pour Philippe, c'était un peu genre « Ah, flûte !» Et en fait, Jimmy Jay, il a écouté le morceau, il a dit « C'est hyper bien, il a adoré la musique. » Et donc, il s'est proposé de faire des scratchs dessus. C'est arrivé de façon assez naturelle.
Et c'est lui qui a amené Honey Drippers et Gangstar sur le morceau.
C'était dans le scratch. Ouais.
Ce qui est intéressant, Étienne de Crécy, c'est que cette techno, qui était une musique donc mal considérée, réunissait pourtant toutes vos influences, c'est-à-dire la new wave de votre adolescence, la soul, le funk. Vous avez tout de suite identifié que ça serait votre musique.
Effectivement, ouais. Avant la techno, moi j'adorais et le hip-hop et la soul, et en même temps la new wave. Et c'était deux cultures qui étaient assez irréconciliables. À l'époque, il faut se souvenir que c'est une époque où on devait acheter la musique. Donc en fait, c'était...
Oh là, c'est des temps immémoriaux,
c'était,
ça.
Non, mais c'est marrant parce que du coup, on se définissait par la musique qu'on écoutait. C'était très rare d'avoir des gens qui écoutaient la funk et la new wave. En général, on se définissait parce que c'était un investissement en temps, en argent. On s'investissait dans une culture, on va dire, dans un style. Et on n'allait pas trop voir ailleurs parce que ça coûtait trop cher, tout simplement. Donc ce qui fait que... C'est pour ça que je trouve ça dément. Heureusement que le MP3 est arrivé, ça a ouvert la culture de tout le monde et ça a fait beaucoup beaucoup de ponts et ça a brisé les chapelles, donc ça c'est super. Et donc effectivement, moi quand la techno est arrivée et qu'il y avait ces deux influences, ça a été une révélation. Je me dis enfin je peux m'investir dans un truc, je vais pas faire un grand écart.
Et parmi les influences déclarées de cet album, on trouve aussi ceci. Guillaume Latortue, son EP Salinas.
Ouais.
Non, je vous regarde avec insistance parce que vous avez l'air perplexe. Non,
c'était pas très fort dans mon casque. Du coup, j'entendais pas. J'ai pas reconnu tout de suite le son.
Alors qu'Étienne est DJ, il est à moitié sourd. Il n'a pas parlé.
En quoi est-ce que ça vous a inspiré?
Alors, en fait, on faisait une musique un peu. Avant d'entendre ce morceau, on faisait une musique un peu, une techno peut-être un peu classique, un peu scolaire. Et on était au studio justement quand Guillaume est passé avec ce morceau, il nous a fait écouter. Ouais. Et donc il y a une production sur ce morceau qui est assez étrange parce qu'elle est indémontable pour nous qui savons comment c'est. On savait pas comment il avait fait. C'est les sons ils sont bizarres. Je sais toujours pas d'ailleurs comment il a fait. Mais il y avait quelque chose de magique et quelque chose qui va au-delà de juste des notes et des sons. Il y a une espèce d'ambiance qui prend le truc. Alors ça, en plus dans les rêves, le morceau il avait un effet complètement fou sur les gens, ce qui s'entend pas obligatoirement comme ça, mais il faisait entrer tout le monde en transe parce que ce morceau il avait cette force là. Et que c'est vrai que quand on l'a entendu, on a dit on peut plus faire la musique comme on... Enfin, ça a changé complètement notre façon de faire la musique.
Et est-ce que votre héritage de bassiste punk rock, puisque j'ai ouï dire que vous l'avez été, se ressent à quelconque endroit de l'album?
De l'album, je sais pas, il doit bien se ressentir quelque part.
Motor basse.
Non, mais dans le nom. Et puis aussi, il y a toujours des lignes de basse. Alors, il faut voir que dans la techno, il y a des technos qui existent sans lignes de basse. Où en fait, il y a des kicks, il y a des grosses caisses, des caisses claires, il y a beaucoup de sons, mais il n'y a pas de basse mélodique. Nous, à chaque fois, on a des notes. Les basses, elles font des notes. Ouais. Et c'est vrai que la basse, c'est un instrument qui est primordial dans toutes les musiques, à mon sens.
Étienne de Crécy, avec Philippe Sdard, vous avez toujours travaillé de la même manière, à savoir avec un sampleur et un seul synthétiseur et des tas de disques de soul, de funk, de jazz, où se trouvait la matière première, à savoir les samples. Est-ce que ce sont les samples qui donnent ce côté si singulier à Motor Bass?
Alors, je pense qu'il y a et ça et le fait que déjà il y a effectivement les samples, mais je sais pas parce qu'après il y a plein de gens qui ont travaillé avec les samples. Il y a autre chose. Je pourrais
dire. Essayons de l'identifier.
Il y a autre chose. Non, mais c'est difficile. Bah, en fait, là, c'était la réunion, c'est quand on travaillait Philippe et moi effectivement, où on a eu un... Comment dire, c'était pas du tout formel à l'époque. On se l'est pas évoqué, on s'est jamais dit il faut faire ça. Mais c'est vrai qu'on cherchait à faire une musique kiffante.
Ouais.
Et donc c'était le seul enjeu du truc. On se retrouvait. Alors en général, on travaillait chacun de notre côté sur le sampleur à préparer la boucle. Mais après la boucle, on la mettait sur une console et tous les deux, on faisait la structure du morceau en live. en deux bancs, c'est-à-dire qu'on enregistrait juste en stéréo ce qui sortait de la console, mmh. et on faisait des envois dans les effets, on coupait les pistes, on en ouvrait d'autres, et on faisait toutes ces structures-là en live. Donc il y a quelque chose de très organique oui. dans la structure des morceaux, c'est jamais très élaboré, parce qu'en fait, on avait que deux mains, donc au bout d'un moment, on pouvait pas couper plus de pistes que ce qu'on avait de doigts. et par contre, il y avait ce truc-là, c'est qu'il fallait, qu'il se passe quelque chose dans la structure. Il y a des versions qu'on achetait parce qu'en fait, il se passait rien, c'était plat, la structure ne marchait pas. Et ceux qu'on a gardés, qu'on a un peu édités après, c'est quand il se passait quelque chose. Et le truc qui devait se passer, c'est que ça devait être kiffant. Ouais. C'est un mot très important. Uh-huh. Pour définir l'album.
Mais vous aviez aussi expliqué, nous étions jeunes et nous ne réfléchissions pas beaucoup, alors nous pouvions faire de la musique très vite. Est-ce que le succès de l'album et ce ton si particulier vient aussi de son extrême spontanéité ?
Alors c'était spontané, ouais. Je pense que c'est ce que j'entends encore dans le disque aujourd'hui, c'est le charme que je lui trouve encore, c'est ce côté très spontané, effectivement parce que la technologie était nouvelle, et donc du coup il suffisait de peu de choses pour que le son soit nouveau, qu'il sonne nouveau. Ouais. Aujourd'hui si je prends un sample et je mets un beat par-dessus, vous l'avez entendu des milliers de fois, ça a plus du tout le même impact, c'est plus du tout original. À l'époque, quand on faisait ça, tout d'un coup, tout le monde disait « Ouah, c'est dingue !» Alors qu'en fait, la recette était très simple. Et nous aussi, on se disait « Ouah, c'est dingue !» On avait cette surprise de ce qu'on faisait. Et donc, comme on était surpris, on n'allait pas chercher beaucoup plus loin. Mm-hmm. Ce qui est très difficile aujourd'hui, vu que le terrain a été défriché.
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'un album de cette teneur est absolument inenvisageable aujourd'hui, ou en tout cas avec cette méthode de travail.
Et ben maintenant, il faudrait beaucoup de travail justement pour retrouver cette fraîcheur. Moi, c'est ce que je fais. En fait, alors, quand je suis dans mon studio, j'essaye d'oublier toute mon expérience, d'oublier tout ce que je sais, pour retrouver cette fraîcheur et cette candeur par rapport à la technologie. Et par contre, c'est très difficile après 25 ans.
À cette époque lointaine, en 1996, on n'entendait pas encore parler de Laurent Garnier et les Daft Punk faisaient encore du rock sous le nom de Darling. Est-ce que vous saviez au moment de la sortie, vous m'avez déjà dit non, que cet album allait bouleverser profondément la musique française ?
Non, alors vraiment non. Encore une fois, en fait, il se trouve qu'en plus l'album, on l'a fait sur une très longue durée. Il a pris très longtemps à se faire. Il s'est fait sur un an ou deux, parce que c'est que des petits bouts de trucs qu'on allait à droite, à gauche. On allait dans un studio, on en faisait un morceau, puis un autre, et puis ça bougeait tout le temps. Mmh. En plus, Philippe était quelqu'un qui était très très et perfectionniste. Et en même temps, qui changeait d'idée très rapidement, il y avait toujours plein d'idées géniales. Mmh. Et donc, en fait, on allait dans des directions, puis tout d'un coup, tout dans une autre direction. Et puis, donc, ça a mis très longtemps à
prendre forme.
Ça a mis très longtemps à prendre forme. Mais ça restait un hobby pour nous. On travaillait, nous, on était des professionnels. Donc, Philippe, ingénieur du son. Ouais. Moi, je commençais une carrière d'ingénieur du son. Mais donc, on travaillait dans l'industrie du disque. Mais ça, c'était complètement hobby. Et on n'avait pas de signe que ça allait devenir important.
Et d'ailleurs, ce titre, Pound Soul, est-ce qu'il faut l'entendre comme toutes les soul music ou toutes les âmes ?
C'est une âme panoramique. Ouais. Oui, c'est voilà, pan en fait, c'est effectivement le bouton qui permet sur une console de mixage d'aller de droite à gauche en fait. Ouais. Panoramique en fait, c'est ce qui permet de mettre un son un mixeur, il peut mettre un son complètement à droite, complètement à gauche, et donc pan soul, c'était par rapport à ce bouton panoramique c'est la largeur de l'âme.
Étienne de Crécy, aujourd'hui, ça vous fait quoi d'écouter Pan Soul sur Spotify? C'était évidemment impossible lors de sa sortie, parce que Spotify n'existait pas.
Effectivement, Spotify n'existait pas. Et au moment de sa sortie, le MP3 n'existait même pas.
Mais rien
on s'envoyait des fax et on allait à Lyon en charrette.
Non, donc, on se parlait sur Bebop. Ouais, voilà.
On avait des Bebop, effectivement. Non, alors c'était effectivement, il se trouve que après sa sortie, au moment où Spotify et où toutes les plateformes de streaming sont arrivées, bien l'album, on l'a pas mis dessus, je sais pas pourquoi. En fait, donc c'était Philippe était le producteur de l'album, pareil, quelqu'un de très foutraque qui partait dans toutes les directions, et il a jamais vraiment pris le temps, parce que c'est un peu d'admin en fait de mettre un album sur Spotify, il faut quand même faire appel à un distributeur, et donc il a jamais vraiment pris le temps, mais c'était plus par c'était pas une volonté, mais c'est vrai que au bout d'un moment on s'est dit bon, ce serait quand même pas mal qu'il soit sur les plateformes, et malheureusement il a disparu avant de pouvoir le faire. Et donc là, à l'occasion des 25 ans, Pedro Winter a donc fait une ressortie de l'album sur Headbanger, l'album en vinyle,
Et sur Spotify.
Et du coup, on s'est dit, on va le mettre aussi à disponible
et
sur les plateformes.
Nous invitons tous nos auditeurs à faire de même en écoutant les plateformes de téléchargement légales ou en achetant le vinyle de Pan Soul, comme à l'époque. Et nous évoquions évidemment la mémoire de Philippe Sdar, avec qui vous aviez fait ce groupe Motorbass. Bon, petit pop break dans cette émission. Il est 16h35, c'est l'heure des Pop News.
Johnny Marr, légendaire moitié des Smiths, la plus sympa, continue de dévoiler les EP qui formeront en février un album complet après Fever Dreams Part 1, sorti cet été. Voici la deuxième partie sur laquelle on peut entendre ce titre Tenement Time. Tenement Time à retrouver sur l'EP Fever Dreams Part 2 qui sortira le 15 décembre. Et pour écouter les 4 EP réunis dans un album complet, il faudra attendre le 25 février.
Le musicien, chanteur, que ne sait-il faire d'ailleurs? Thomas de Pourquerie pose ses valises et son saxo à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée pour 2 soirées exceptionnelles à la Balise. Avec Babix et André Mainviel, il proposera le 12 novembre le spectacle Nous Gars, dont je vous laisse deviner l'inspiration, et le 13, l'ambiance sera au Sextet de Dingue avec Supersonic. Pour tous les renseignements complémentaires et réservations, une adresse, labalise.fr.
Et on termine avec un teaser annonçant une intrigante collaboration. D'un côté l'Espagnol Rosalia et de l'autre le Canadien The Weeknd. Et leur titre commun est annoncé par le comédien Danny Trejo, parce que, bah, pourquoi pas.
So get ready for some heat. La fama.
Y tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
La Fama sera dévoilée dans son intégralité demain et le titre figurera sur Motomami, le prochain album de Rosalia.
France Inter. Pop. Antoine Decaux.
Je ne l'attendais. The Weeknd.
Mais oui, bien sûr.
Bah, la même tessiture, hein, vraiment, on est sur le même.
Merci Charline. Étienne de Crécy, avant de vous présenter la jeune chanteuse Courtney Marie Andrews, faisons un détour par votre planète pop. C'est l'heure de votre pop list. Un livre, un film, une musique, une série, voilà ce que vous avez apporté dans votre panier à roulettes, accessoires peu utilisés chez les DJ, je vous l'accorde. Votre livre du moment, Étienne de Crécy, c'est Boombas, une histoire de la French Touch, livre signé Hubert Blanc-Francard. Charline, tiens, encore un témoignage sur la fameuse French Touch, serait-ce une épidémie?
Ouais, mais une chouette cette fois. Récit de l'intérieur d'une histoire légendaire, une autobio parsemée de 1000 anecdotes et d'une playlist retraçant 30 ans de musique pop, mettant en scène les artistes les plus mythiques, comme par exemple Serge Gainsbourg ou Pharrell Williams.
Est-ce que vous auriez la gentillesse, Étienne, il me regarde avec des yeux effarés.
J'ai peur.
Nous en lire deux. Les premières lignes, par exemple.
Les premières lignes, d'accord, je peux lire les premières lignes.
Du livre de Boombas.
Ça commence par l'angine.
Ouais.
Je regarde disparaître notre maison depuis la route. Silly Love Songs, chanté par Paul et Linda McCartney, sort des enceintes de la voiture et me plonge dans le spleen d'un enfant de 11 ans qui abandonne son pays natal.
Eh ben voilà, nous y sommes. Boombas, une histoire de la French Touch. Pourquoi avez-vous choisi ce livre?
Alors, il se trouve que justement, on venait parler des 25 ans de la réédition de Motorbass. Mmh. Et il se trouve que le livre, il est sorti pratiquement en même temps. Le livre d'Hubert, il est sorti pratiquement en même temps. Il est sorti cette année. Et effectivement, lui, il retrace de son côté l'aventure qu'il a donc parcouru avec Philippe Sdar. Ils ont un groupe ensemble qui s'appelait d'abord La Funk Pop puis Cassius. Et donc voilà, et c'était l'occasion de parler de ce bouquin qui est très intéressant, qui est très bien écrit. C'est très drôle, Hubert est quelqu'un de très rigolo.
Ouais.
Et en fait, alors le sujet, moi, il m'intéresse parce qu'il y a plein d'anecdotes que je connaissais, mais bon, vu d'ailleurs, d'un autre point de vue. Et donc, j'étais content de les voir depuis son point de vue à lui. Et puis ensuite, la découverte, c'est qu'il écrit très bien et que c'est très rigolo.
Boomba, c'est une histoire de la French Touch et c'est aux éditions Léo Cher par Hubert Blanc-Francard. Votre série du moment, Étienne de Crécy, c'est Montre jamais ça à personne. La série du frère d'Orelsan sur Orelsan, disponible sur Amazon Prime Vidéo. Charline, une série qui est plus de l'ordre du doc, si je ne m'abuse.
De la série documentaire,
voilà,
on peut dire, du coup, pour trancher.
Comme ça.
Clément Contentin a un frère et il croit très fort en son talent. Alors, dès le début des années 2000, il le filme et suit toutes ses aventures. Et comme son frère Aurélien a un alias qui s'appelle Orelsan, ça donne un récit époustouflant.
Étienne de Crécy, vous avez aimé plonger dans le quotidien du rappeur à l'époque où il mangeait des pizzas dans sa chambre d'ado ?
C'est extraordinaire, le début de... Alors déjà, la série est super bien réalisée. Alors, c'est très très bien réalisé. Alors, il avait beaucoup de...
Puis 20 ans d'image.
20 ans d'image, ouais, mais 20 ans d'image, on peut faire un truc pas bien avec 20 ans d'image.
C'est pas faux.
Non, mais on peut éviter les moments importants. Là, il y a un truc qui est très humain, c'est-à-dire que... Parce que quand même, il cache rien. Il y a tous les rapports entre les protagonistes, ils vont quand même au fond des choses, c'est-à-dire qu'ils disent des trucs vraiment. Et puis après, il était hyper. Moi, j'étais pas très familier de la musique d'Orelsan, mais je savais pas qu'il était comme ça quand il était jeune. C'est hilarant, c'est hyper drôle. Mais la série est très bien faite.
Et vous voilà conquis. Montre jamais ça à personne. La série sur Amazon du frère d'Orelsan sur Orelsan. Enfin, votre recommandation musicale, Étienne de Crécy, c'est ceci. Too Hot in LA, c'est un morceau signé Woody and Jeremy, extrait de l'album Strange Satisfaction, un album qui vous apporte donc une étrange satisfaction.
Une étrange satisfaction, ouais. Alors c'est un album assez récent, hein. C'est un groupe qui sonne un petit peu ancien, mais c'est un groupe d'aujourd'hui, et l'album il est vraiment super, je le conseille à tout le monde.
Très bien, et ben voilà, j'ai ma petite pop-liste complétée, merci infiniment Étienne.
Avec plaisir.
Moi, ma recommandation du jour, pour autant qu'elle intéresse quelqu'un,
oui, alors, bien sûr, Antoine.
Oui, bien sûr. Eh bien, c'est la jeune songwriter de Phoenix, Courtney Marie Andrews, qui nous rejoindra juste après un de ses morceaux. Et je vous propose de découvrir. Ça s'appelle Earlap String. Talk myself into a lie.
could go back now, I'd pick you wildflowers, tie them in burlap string, tell you what you mean to me. If I could go back now, I'd pick you wildflowers, tie them in burlap string, tell you what you mean to me.
Burlap String dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé Courtney Marie Andrews. Bonjour Courtney Marie Andrews.
Hello.
Je vous présente Étienne de Crécy, membre de la French Touch. Étienne, je vous présente donc Courtney Marie. Courtney Marie, vous serez en live dans un instant sur la scène de Pop 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 avec votre American Touch pour nous interpréter votre morceau If I Told. Mais avant ça, faisons connaissance. Vous avez grandi à Phoenix, en Arizona, vous avez 31 ans et aujourd'hui vous venez nous présenter Old Flowers, qui est votre huitième album. Huitième album à 31 ans, on peut dire que vous n'avez pas perdu de temps.
I'm a busy body.
Non, c'est vrai que j'aime bien ne pas rester à rien faire.
I like to get things
done. Eager
like
Beaver, c'est le castor qui a très envie de tout et j'aime travailler autant que je peux, quand je peux.
Prenez-en de la graine, Charline Roux. Votre musique est un mélange de folk et de country et je sais que vous avez passé beaucoup de temps dans le ranch de votre grand-père qui était un vrai cow-boy, dites-vous, et qui écoutait beaucoup de country music, tout comme votre mère. Mais l'inspiration directe, elle ne vient pas d'eux, mais plutôt des interprétations faites par vos idoles comme Neil Young ou Bob Dylan. Votre grand-père et votre mère n'étaient pas trop déçus de vous voir prendre cette direction ?
Oh, I think that my grandpa actually before he could really see that I became a musician, he passed away.
Mon grand-père est mort en fait avant que je me destine vraiment à la musique, donc il n'a pas pu me voir dans mes œuvres. Ni mon arrangement de la country music.
Et je parlais d'un mélange de folk et de country, mais comment est-ce que vous définissez votre propre musique ?
I would say it's more singer-songwriter, and I don't like to be so boxed in a genre.
Je crois que c'est plus
du songwriting.
Moi, je suis pas trop dans les genres, les cases, les étiquettes. J'aime bien explorer toutes sortes de sons, toutes sortes de musique.
Kind of do a lot of more modern sounds, so
et donc j'essaye des sons un peu plus nouveaux, un peu plus modernes, mais c'est le son qui compte le plus pour moi.
Voilà un point commun avec Étienne de Crécy qui nous écoute attentivement. Oui, Charlie.
Il y a une comparaison qui revient assez souvent dans la presse pour parler de votre musique, c'est celle avec Linda Ronstadt. Est-ce qu'elle vous semble aberrante ou au contraire extrêmement sensée?
I didn't grow up listening to Linda Ronstadt, but I think she's an amazing singer.
Quand j'étais jeune, j'écoutais pas, mais c'est une chanteuse fantastique, donc personnellement, je prends ça comme un compliment. Et puis elle était très versatile, elle s'essayait à beaucoup de genres différents aussi.
But she's not a songwriter, she's a singer.
Mais elle n'était pas autrice, compositrice.
Et alors, on a entendu dire qu'à 11 ans, soit quelques années avant de commencer, vous avez placardé une affiche de London Calling de Clash dans votre chambre. Est-ce que ça ne vous a pas incité à faire une musique plus énervée, on va dire, plus rock, plus punk?
Yeah, I started out playing in a feminist punk band. So
c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai joué dans un groupe punk féministe. Donc j'ai gardé un peu cet état d'esprit. J'essaie de garder cet état d'esprit.
Petite, vous écriviez des poèmes. Aujourd'hui, vous écrivez des chansons. Est-ce que cette écriture vous apporte du réconfort? Enfin, c'est ce que vous dites. Ça vous apporte du réconfort. Vous parlez même d'une véritable thérapie. Est-ce que cette écriture est quelque chose d'absolument vital pour vous?
Yeah, writing is definitely vital. I can feel.
Oui, c'est vital pour moi l'écriture.
Caught up if I don't. And it's also.
Je suis assez oppressée quand je n'écris pas. Et puis quand j'étais petite, j'avais du mal dans les relations sociales. J'avais du mal à parler aux gens. En revanche, quand j'avais ma guitare, je chantais sans problème.
La musique vous a sauvé.
Yeah. I think it's a great communicator.
On peut dire ça, et ça aide à communiquer, oui.
Et alors justement, est-ce que vous avez des rituels d'écriture?
My ritual is to just write as much as possible.
Mon rituel, c'est d'écrire autant que possible.
For a month, I'll write a song a day every single morning.
Pendant un mois, par exemple, je vais écrire une chanson. Tous les matins, je vais m'y mettre pendant une heure ou deux. Après, je fais une petite pause, je vais marcher.
Et en ce moment, vous écrivez?
Are you writing right now?
I'm not because I've been on the road for 10 weeks.
Non, parce que je suis en tournée depuis 10 semaines. Et en tournée, c'est difficile d'écrire.
10 semaines sur la route et pour arriver dans le studio de Pop Pop Pop, Courtney Marie, je vais vous proposer de rejoindre la prestigieuse scène de Pop Pop Pop. Si vous voulez bien vous installer, voilà, on baisse un peu les lumières dans la salle. On règle le projecteur sur vous. La poursuite est là. Voilà, et je décris, elle est en train d'attraper sa guitare, une vieille Martine qui sonne magnifiquement bien. Et dès que vous êtes prête, je vous fais le pop de départ et on y va, Marie Courtney, on vous écoute, d'accord? Ok, et c'est parti.
It's a full moon, how late we're alone for the first time on Venice Beach under the palm trees. Tell me your dreams and I'll tell you mine. What would you say if I at the end of each night, would you believe me? Or would you even reply? Is it in the stars or some age-old truth? Why did the universe draw me to you? You're so magnetic, I am hypnotized. Feels like I've known you since before this life. I hope I always see you this way. Here's to wondering if you feel the same, but I can tell when
Andrews, et j'en profite pour annoncer aux Parisiens que vous serez ce soir en concert à la Boule Noire. C'était une belle chanson, Étienne, je vous sens tout remué.
Oui, c'était très joli.
C'est absolument magnifique. Et alors, il y a quelque chose là-dedans, parce qu'on parlait de musique country avec Courtney Mary, et elle expliquait qu'elle ne voulait pas être rangée dans une catégorie ou une autre, mais il y a quelque chose dans la country musique, là, et cette chanson vient de mettre exactement le doigt dessus, qui parle de choses qui sont... qui touche au cœur, qui touche à l'âme et a une forme d'universalité immédiate, c'est-à-dire que c'est une chanson qui peut toucher un cow-boy aussi bien qu'un vieil animateur de radio comme moi. Et je rappelle que All the Flowers, votre dernier album, Courtney Mary, est disponible et recommandé par Pop Pop Pop, tout comme la réédition de l'album Pan Soul de Motorbass, dont on a fêté aujourd'hui les 25 ans. Merci Étienne de Crécy d'être venu nous rendre visite.
Merci.
Merci Charline.
Merci.
Et merci Courtney Mary. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Grégory Boilon et Sofiane Aktib qui étaient à la technique aujourd'hui. Et bien sûr...
à FDR qui a assuré la traduction. FDR
qui a assuré, c'est le moins qu'on puisse dire, la traduction. Demain dans Pop Pop Pop, Catherine Meurice vient nous parler de sa nouvelle BD. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets. 3615 Pop Pop Pop.